Je vais maintenant arrêter ma trop longue introduction et je vais présenter Matthias Fink, que je remercie vraiment d'être venu spécialement ici depuis les États-Unis avant de repartir en Uruguay. Donc Matthias Fink est né en 1945, c'est un physicien de formation, il fait des études de physique. Il est actuellement professeur de physique à l'École supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris que dirige Pierre-Gilles de Gennes et à l'Université de Paris. Il est membre de l'Institut universitaire de France, donc qui est une sorte d'un, je ne sais pas si c'est un institut, c'est plutôt un statut, c'est-à-dire un institut qui reconnaît les universitaires les plus émérites et les plus brillants et qui leur accorde des moyens spéciaux de recherche et des décharges de services d'enseignement pour qu'ils puissent développer et impulser leurs recherches. Il a une formation de physicien du solide et ensuite il s'est orienté vers l'imagerie médicale en participant à la mise au point des premiers échographes ultrasonores en collaboration avec des sociétés industrielles. Il a développé de nombreux travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des ultrasons et créé en 1990 à cette École supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris le laboratoire Ondes et Acoustiques, qui regroupe une trentaine de chercheurs et où on développe des instruments exploités dans de nombreuses applications. Et parmi ceux-ci, je pense qu'il nous en parlera, les miroirs acoustiques à retournement temporel. C'est une petite lueur jetée sur le titre de sa conférence, Acoustique et renversement du temps.
Le titre de mon exposé est un peu curieux, Acoustique et renversement du temps. Pour tous ceux qui ont appris un peu de physique à l'école ou à l'université, l'acoustique et le renversement du temps, ça fait partie de deux domaines qui n'ont rien à voir dans les cours. L'acoustique, c'est le domaine des ondes, et le renversement du temps, c'est plutôt le domaine de la réversibilité, l'irréversibilité en physique. Et habituellement, c'est dans les cours de thermodynamique qu'on parle de ces problèmes. Ce que je vais vous montrer, c'est que ces deux domaines de la physique, acoustique et réversibilité, peuvent se marier ensemble pour faire des expériences tout à fait curieuses, où on va montrer qu'on peut vraiment renverser le temps pour la vie d'une onde. Ce n'est pas la vie d'une personne, malheureusement. Et on verra que le plus étonnant, c'est qu'à côté de ces expériences intéressantes, parce que ça met en œuvre beaucoup de problèmes liés au chaos en physique et au chaos dont vous avez tous entendu parler pour la prédiction des événements, eh bien, à côté de ça, il y a aussi d'énormes applications des techniques de renversement du temps. Et je vous montrerai à la fois des applications dans le domaine de l'acoustique sous-marine, le domaine militaire, et je vous montrerai des applications dans le domaine médical, comment on peut casser des calculs, brûler des tumeurs, et des applications dans le domaine du contrôle non destructif, c'est-à-dire comment on peut repérer des défauts dans des centrales nucléaires ou dans des moteurs d'avion. Et enfin, je vous montrerai qu'on peut faire des choses, des acrobaties sonores extravagantes avec ce genre de technique. Bon, alors, pour commencer, puisqu'il y a les deux thèmes acoustique et renversement du temps, je vais d'abord parler de renversement du temps. Renversement du temps, c'est le grand thème qui intéresse tout le monde, la réversibilité. Et vous savez que les systèmes macroscopiques formés de beaucoup de particules évoluent toujours dans le même sens. On a rarement vu quelqu'un rajeunir, on le voit vieillir, et ça, c'est ce qu'on a toujours constaté. Et ça avait intrigué les physiciens depuis longtemps. Pourquoi ? Alors que les équations de la physique microscopique sont réversibles, pourquoi les grandes masses de particules évoluent toujours dans un sens et n'évoluent jamais en marche arrière ? Donc, première chose, il faut comprendre un peu mieux ça, et on va essayer de le comprendre du point de vue de l'ingénieur qui se pose la question, est-ce qu'en exploitant la réversibilité des équations de la mécanique, est-ce que je peux fabriquer un appareil qui va forcer les objets à revenir en marche arrière vers leur vie passée ? Donc, première chose, qu'est-ce que c'est que la réversibilité en physique ? La réversibilité en physique, c'est lié à l'équation de Newton, bien connue sur la dynamique des particules, qui vous dit la chose suivante, si vous avez deux particules que vous envoyez et qui se cognent sur un billard, par exemple, et si vous suivez la trajectoire de ces deux particules qui se sont choquées de façon élastique, si deux physiciens sont capables d'arrêter chacune des particules à un instant donné, et au moment où ils arrêtent la particule mesure exactement leur vitesse, et si un peu plus tard, les deux physiciens renvoient les deux particules en inversant la vitesse, c'est-à-dire en voyant dans la direction opposée, eh bien, les deux particules n'ont pas d'autre possibilité que de revivre exactement leur trajectoire passée, c'est-à-dire qu'elles vont se recogner à l'endroit où elles s'étaient cognées avant, et elles vont revenir exactement au point où elles étaient parties avant. C'est-à-dire, ça, c'est la base de la réversibilité en physique, c'est dans les équations de Newton. Maintenant, ce n'est pas facile de faire une expérience comme ça, et habituellement, ce n'est pas deux particules qui nous intéressent, c'est des milliards et des millions de particules qui nous intéressent. Et donc, si vous imaginez un million de petites boules de billard qui s'entrechoquent, qui au départ partent d'un endroit bien précis dans l'espace, vous les envoyez, elles se cognent les unes les autres, vous suivez la trajectoire de toutes ces particules, et si vous avez un milliard de physiciens qui arrêtent ces particules, mesurent exactement leur vitesse, si un peu plus tard, tous ces physiciens renvoient les particules en marche arrière, eh bien, toutes les trajectoires des particules doivent se faire dans l'autre sens et toutes ces particules doivent retrouver l'endroit où elles étaient à l'origine. Ça, c'est toujours dans les équations de la mécanique qui est réversible. Maintenant, si vous essayez de faire cette expérience, c'est très dur parce qu'il vous faut des physiciens partout capables d'arrêter les particules et de les renvoyer. Et donc, on peut essayer de faire cette expérience à l'ordinateur. C'est plus simple. On prend un ordinateur, on programme sur l'ordinateur le mouvement de 500 particules qui se cognent et qui suivent les lois exactement de la dynamique. Et on dit à l'ordinateur, vas-y, prévois-moi les trajectoires des particules à chaque instant. Et à un moment donné, on dit à l'ordinateur, top, arrête tout, mesure la vitesse des particules, leur position et renvoie-les en marche arrière. Et si l'ordinateur fait ça, en appliquant les lois de la dynamique, on devrait retrouver les particules telles qu'elles étaient avant. Eh bien, ça ne marche jamais. Pourquoi ? Parce que dans un ordinateur, tous les calculs sont faits avec une précision finie, et la moindre erreur que fait l'ordinateur lorsqu'il mesure la vitesse des particules et lorsqu'il renvoie les particules, parce qu'il y a toujours des erreurs de calcul, parce qu'il a une précision finie, ces erreurs s'amplifient avec le temps. Et on appelle ce problème le problème de la sensibilité exponentielle aux erreurs initiales, c'est-à-dire si je renvoie toutes les particules avec toutes les vitesses que j'ai mesurées, les toutes petites erreurs que j'ai faites qui peuvent être de 10-15 ou de 10-30 qui dépendent de la précision de l'ordinateur suffiront pour qu'au bout d'une dizaine de collisions, les particules ne retrouvent pas leur chemin passé. Donc c'est très triste. Les équations de la physique sont microscopiques, sont réversibles, mais pour réaliser une telle expérience, il faudrait une telle précision qu'aucun appareil existant aujourd'hui ne peut permettre de réaliser ça. Et même un ordinateur ne peut pas le faire, et pourtant c'est virtuel. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est fini de toutes ces expériences de renversement du temps qui permettraient à un ensemble de particules de retrouver leur passé et leur position passée ? Eh bien, pas tout à fait, parce que si vous pensez à des mouvements de particules, là, je parlais de particules qui s'entrechoquent. Il y a des tas de types de mouvements qu'on peut donner aux particules. On peut donner aux particules des mouvements complètement aléatoires à travers la température qui agite les particules de façon aléatoire. Et là, c'est très difficile de mesurer les particules et de les obliger à revenir en marche arrière. Mais vous pouvez, quand vous avez des particules, les mettre en mouvement de façon collective. Et vous savez que les ondes acoustiques ne sont rien d'autre que des ondes, quand je vous parle, mes cordes vocales agitent les molécules d'air qui sont devant elles, et l'ensemble des molécules d'air près de ma bouche, et puis au fur et à mesure les molécules d'air qui sont dans toutes ces pièces, vont se mettre en mouvement du fait des premiers mouvements de mes cordes vocales. Et donc, vous avez un mouvement coordonné des particules, qui est un mouvement d'ensemble, qui est un mouvement collectif de particules que sont les ondes acoustiques. Les ondes acoustiques, ce sont tout simplement la mise en mouvement de particules, aussi bien dans l'air que dans l'eau que dans les solides, mais ce sont des mouvements coordonnés, et ces mouvements sont coordonnés sur une distance qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, en gros, ou le dixième de la longueur d'onde, c'est la distance sur laquelle toutes les particules vont bouger ensemble. Donc, quand vous avez un ensemble de particules, vous pouvez, en envoyant des ondes acoustiques à partir d'une source, faire bouger ces particules de façon coordonnée, les unes derrière les autres, et elles vont bouger les unes après les autres, et ce sera le son que vous allez recevoir et que votre oreille va entendre, et que moi j'aurai émis. Et ces mouvements collectifs de particules se font donc sur des échelles qui sont la longueur d'onde, et cette longueur d'onde pour les ondes sonores est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, Et pour les ondes ultrasonores, dont je parlerai beaucoup, les longueurs d'onde sont de l'ordre du millimètre ou du dixième de millimètre. Ce sont des mouvements collectifs des particules, mais sur des petites échelles qui se propagent les uns après les autres. Mais toutes les particules sur l'échelle de la longueur d'onde bougent à peu près ensemble. Et là, c'est là qu'on a une chance assez fabuleuse, nous autres gens de la physique acoustique, c'est que ces fameux physiciens dont je vous parlais, qui devaient mesurer la vitesse des particules, les arrêter, puis après renvoyer les particules avec une vitesse opposée, eh bien, dans le domaine de l'acoustique, ces physiciens peuvent être remplacés par deux petits gadgets que vous connaissez tous. Le microphone est un appareil merveilleux que seuls les acousticiens ont. Les gens de l'optique n'ont jamais l'équivalent d'un microphone. Ils ont des détecteurs de lumière, mais qui n'ont pas la propriété d'un microphone, qui est la propriété suivante. Lorsque des particules arrivent, s'agitent à cause du mouvement collectif des ondes acoustiques, si un microphone, la membrane du microphone reçoit des coups, et ces coups se transforment en courant électrique. Donc un microphone vous donne exactement la vitesse des particules qui le cognent sur sa membrane, et ça se manifeste sous la forme d'un petit courant électrique qu'on peut enregistrer dans un oscilloscope ou dans une mémoire électronique. D'autre part, il existe un deuxième appareil qui peut remplacer le physicien, c'est le haut-parleur. Un haut-parleur, quelle est sa propriété? Quand je mets un courant aux bornes du haut-parleur, sa membrane bouge à une certaine vitesse qui dépend du courant, et donc il va donner des coups sur les particules d'air ou de liquide, et ces particules vont bouger à la vitesse donnée par le haut-parleur. Donc vous voyez que le couple micro plus haut-parleur est un couple magique qui peut d'une part mesurer la vitesse des particules qu'il cogne, et d'autre part appliquer après une vitesse à ces particules. Donc l'expérience de renversement du temps dont je vous parlais, on peut la concevoir pour les mouvements collectifs des ondes acoustiques en utilisant de très nombreux couples de microphones et de haut-parleurs. Et on a cette chance en physique de disposer d'un petit gadget très joli qui s'appelle le transducteur piézoélectrique ou le cristal piézoélectrique, qui est un petit cristal ou ça peut être une céramique qui a la propriété d'être en même temps microphone ou haut-parleur, c'est-à-dire le même bout de cristal, qui n'est d'ailleurs pas toujours un cristal, lorsqu'il reçoit une onde acoustique qui arrive avec une certaine, qui fait bouger les particules, il y a un courant électrique qui sort de ce cristal qu'on peut mesurer. Et le même cristal, plus tard, si moi je rentre un courant électrique dedans, c'est lui qui va se mettre à bouger pour créer une certaine vitesse. Donc vous pouvez imaginer la chose suivante, je ne sais pas si c'est très net. Je sais que j'ai... oui, c'est le mauvais base. Bon. Alors, ouais, le zoom va me permettre d'agrandir, mais ce n'est pas tout à fait ça que je veux. Je trouve que c'était assez grand. Mais l'idée d'une expérience de renversement du temps est la suivante. Est-ce que vous arrivez à voir assez bien? J'ai quand même l'impression qu'il y a un problème de focus, de focalisation. Ah non, voilà, focus. Je suis... Alors, est-ce que c'est mieux? J'essaye là. Auto. Allez, on va essayer de faire en mode automatique. Vous voyez à peu près? Bon. Alors, l'idée d'une expérience de renversement du temps en acoustique est la suivante. Vous avez une source ici qui pousse un petit cri. Ce cri va mettre en vibration toutes les molécules qui sont autour. Et une onde acoustique va se propager dans cette pièce quand je parle, par exemple. Et dans cette pièce, le son que j'ai émis va se promener, mais peut rencontrer des obstacles. Et ici, j'ai dessiné en vert des obstacles qui sont des zones où le son à une vitesse très différente des zones habituelles. Ça peut être aussi des zones où il y a des obstacles. Et donc, mon onde acoustique, au départ, à sa naissance, part d'un point source, part, se répand dans l'espace et se déforme en rencontrant des obstacles. Et cette onde va avoir un front qui va se distordre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais entourer toute la scène où mes ondes acoustiques se propagent de tas de petits physiciens. Mais ces physiciens vont être remplacés par des transducteurs piézoélectriques, c'est-à-dire quand le cri que je pousse part, se répand partout, ricoche dans tous les coins, eh bien, ici, il y a des centaines de microphones qui captent ces cris et qui enregistrent ces cris sous forme de petits signaux électriques qui sont les signaux de vitesse acoustique enregistrés. Et on va remplir toute une grande quantité de mémoire, qui sont les mémoires électroniques qu'on utilise tous les jours, de ces informations. Et lorsqu'il n'y aura plus du tout de bruit dans cette cavité, dans cette zone, on va faire quelque chose d'amusant. C'est qu'on va relire, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, hein, le contraste n'est vraiment pas bon, tous ces petits signaux sont les signaux électriques qui représentent la vitesse de toutes les particules qui cognent les micros. Et une fois que tout est enregistré, qu'est-ce qu'on va faire? On va relire toutes ces mémoires en verlan. C'est-à-dire, l'idée est la suivante, toute cette information qu'on a reçue, qui a été stockée, on va la relire en inversant exactement la chronologie d'entrée de l'information. Ce qu'on a reçu en dernier, on va le relire en premier, ce qu'on a reçu en premier, en dernier. Ce ne sont pas les syllabes qu'on inverse, mais ce sont toutes les modulations de vitesse qu'on inverse. Et maintenant, tous ces micros vont devenir des haut-parleurs, et on va alimenter tous ces haut-parleurs par ces signaux réémis en verlan. Et donc, on va avoir un gigantesque système de haut-parleurs dans cette salle qui va recracher en marche arrière tout ce qu'il a reçu. Et là, on réalise exactement l'expérience de renversement du temps dont je vous parlais. Les ondes acoustiques qui vont partir de tous ces haut-parleurs n'ont pas d'autre possibilité que de revivre leur vie passée. Et on va voir tous les mouvements des ondes se refaire dans l'autre sens, c'est-à-dire toutes les particules d'air ou de liquide ou de solide, rebouger dans la chronologie inversée. Et on va voir ici se dérouler un film qui est exactement le film inverse de ce film. Et ça, c'est une expérience de renversement du temps. Et pour faire ça, il faudrait normalement mettre énormément de micros et de haut-parleurs dans la pièce. Il faut en fait en mettre, en gros, un toutes les 2000 longueurs d'onde. C'est-à-dire que si vous avez une longueur d'onde de l'ordre de 10 cm, il faudrait toutes les 5 cm avoir un micro et un haut-parleur pour faire ces expériences où quand je parle, tout ce que je dis brusquement me revient en marche arrière et exactement refocalise sur ma bouche et sur mes cordes vocales. Donc c'est très difficile de faire une cavité à retournement du temps. Par contre, on peut faire quelque chose de plus simple que nous appelons un miroir à retournement temporel. C'est juste la même expérience, une onde est émise, se répand partout dans l'espace, mais seule une petite partie de l'espace est remplie de petits micros et de petits haut-parleurs. Et on va enregistrer tous ces signaux, on les stocke en mémoire, une fois qu'il n'y a plus de bruit, on renverse le temps et on réémet tout en marche arrière. Et tous les mouvements vont se faire en marche arrière pour refocaliser. Tout ce que je raconte là est vrai parce que les ondes acoustiques, qui sont donc des mouvements d'ensemble, lorsque ces mouvements se propagent, ce sont des mouvements que nous appelons des mouvements adiabatiques. C'est-à-dire que le mouvement des particules qui se propagent de proche en proche ne crée pas de chaleur. Si dans le processus de propagation des ondes, il y avait une création de chaleur, le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que le mouvement deviendrait irréversible. Or, la propriété élégante des ondes acoustiques, c'est que généralement, elles se propagent sans se transformer en chaleur. Donc, ces expériences de réversibilité peuvent se faire facilement. La chose la plus curieuse est la chose suivante. C'est que lorsqu'on utilise seulement un petit miroir à retournement temporel, c'est-à-dire juste une dizaine de micros et de haut-parleurs, on se dit que ça ne va pas bien se passer, parce qu'on a perdu beaucoup d'informations qui est partie dans d'autres directions qu'on n'a pas captées. Et on se pose la question, quel va être, lorsqu'on va retourner temporellement ce qui est venu de cette zone, quelle va être la réversibilité de la scène qu'on a vue? Est-ce que tout va refocaliser au point de départ? Est-ce que si l'onde qui partait était partie d'une toute petite source, est-ce que la tâche focale sur laquelle l'onde va refocaliser sera petite? Et on se dit, ça c'est les lois des ondes, que plus la taille de l'ensemble de micros et de haut-parleurs est petite, moins ce sera bien, et plus la réversibilité sera mauvaise, et plus les tâches vocales seront grandes, et moins l'expérience sera spectaculaire. Eh bien, on se trompe. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est que quand l'onde qui part de ce point rencontre un milieu qui est le milieu le plus épouvantable, c'est-à-dire un milieu qui a des propriétés de chaos, c'est-à-dire un milieu qui, pour les particules, est épouvantable au niveau de la sensibilité aux erreurs sur la prédiction du mouvement. Eh bien, quand un tel milieu se présente entre la source et le miroir, eh bien, les choses se passent très bien, et d'autant mieux que le milieu est plus chaotique. Donc, le milieu le plus épouvantable qu'on peut imaginer pour le son, et là, les expériences que je vais décrire, ce sont des expériences ultrasonores. Je suis désolé, parce que ce n'est pas bon. Vous arrivez à voir? Bon, c'est dommage parce que ma spécialité, c'est de focaliser le son, mais là, je suis incapable de focaliser l'optique, et c'est là qu'il y a des limites. Ah bon, d'accord, ok, c'est peut-être pour moi que c'est plus mauvais. Alors, l'expérience que je vais vous décrire là se passe dans l'eau, parce que dans l'eau, on peut envoyer du son et aussi des ultrasons. Et comme mon domaine de prédilection, c'est l'imagerie médicale, vous savez tous qu'on peut mettre des barrettes de transducteurs piézoélectriques sur le ventre des femmes enceintes ou des patients pour faire des images de l'intérieur du corps humain en envoyant des ultrasons. Ces ultrasons sont des ondes de fréquence plus élevées que les sons. Par exemple, dans le corps humain, on peut envoyer des fréquences typiquement de l'ordre de 3 MHz, 3 millions de Hertz. Ces fréquences correspondent à des longueurs d'onde de l'ordre du demi-millimètre, qui est un peu la résolution qu'on veut avoir pour faire l'image dans le corps humain. Et donc, typiquement, l'expérience que je vais vous décrire se passe dans l'eau. Dans l'eau, il y a ici une petite source qui émet un tout petit cri ultrasonore. C'est un clic formé de 3 oscillations, 3 petites sinusoïdes à 3 MHz. Ça, c'est un petit clic qui dure une microseconde, un millionième de seconde. Ce clic se répand dans l'eau. Et c'est un clic qui envoie une onde qui est bien sphérique, parce que l'eau est très homogène. Donc l'onde qui part est sphérique et elle est toute belle. Et cette onde très belle rencontre un milieu qui est le pire milieu qu'on puisse créer pour elle. On va mettre des obstacles à la propagation du son sous la forme de 2000 tiges de métal qu'on va répartir de façon aléatoire, comme une forêt de tubes de métal dans laquelle vous essayez de parler et qui fait résonner chaque tube. Et vous imaginez ce que va comprendre la personne qui est derrière cette forêt, il ne comprendra rien de ce que vous dites, parce que le son initial que vous envoyez va rentrer dans cette forêt et va se mettre à s'agiter d'une façon complètement désordonnée, et le son va être piégé là-dedans et faire des ricochets partout. Et une partie du son finira par sortir, et ce que les petits micros qui sont là vont capter, ce ne sera pas une belle onde sphérique très jolie comme celle qu'on a envoyée, mais même si elle a duré une microseconde, l'onde de départ, quand elle arrivera là, il y aura d'abord une onde directe, c'est le chemin le plus court, qui sera suivie par des tas d'interférences, de tas d'ondes qui ont été piégées. Et donc chaque micro va entendre des signaux très longs. Et dans l'expérience, le pulse qu'on émet va durer une microseconde et chaque micro entendra une musique qui va durer 300 microsecondes parce que les chemins suivis par le son zigzaguent dans tous les sens. Et donc on va entendre une cacophonie parfaitement incohérente ici. Et on va enregistrer cette cacophonie avec tous nos micros et on va renverser le temps et réémettre tout en marche arrière en transformant les micros en haut-parleurs. Et on se pose la question, est-ce que l'onde va revivre sa vie passée ? Revivre sa vie passée, c'est-à-dire, est-ce que les 300 microsecondes de bruit que je vais envoyer sur chaque haut-parleur, lorsqu'ils vont revenir à la source, est-ce qu'ils vont redevenir le son initial que la source avait émis, c'est-à-dire un son d'une microseconde ? Si oui, c'est que toute la vie de l'onde s'est refaite en marche arrière. Comment se présente l'expérience ? Comme ça, alors là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Je pense que c'est le cumul Comment ? Ouais. Que faire ? Bon, c'est dommage. Bon, là, vous voyez un peu mieux. Vous avez ici 2000 tiges de métal, c'est de l'eau. Et ici, vous avez un tout petit émetteur qui envoie son clic. Et ici, vous avez une barrette de microphone qui est utilisée en médecine pour faire de l'obstétrique. Donc, on envoie le clic et ça passe à travers les tiges et on écoute ce qui arrive. Et qu'est-ce qu'on voit sur... Ouais, là, je souffre pour vous et pour moi. Comment ? Moi, je veux bien qu'on éteigne les lumières, mais là, je pense que c'est impossible. Ouais, normalement. Ah, c'est cela qui vous gêne, d'accord. D'accord. Ok, je vais zoomer. Alors, télé. Ouais. Si vous regardez les signaux qui arrivent sur chacun, vous avez émis ce petit cri d'une microseconde. Et vous regardez sur chacun des micros quel est le type de signal qui arrive. Et vous constatez qu'au lieu d'avoir un signal qui dure une microseconde sur chaque micro, ça c'est la phase aller, vous avez des signaux qui sont parfaitement incohérents. Vous les voyez ici, ces signaux qui s'étalent dans le temps. C'est-à-dire qu'une personne placée sur ce micro ne comprend pas du tout le message initial, tout est brouillé. Quand ces 96 personnes ou ces 96 micros recrachent tout ce qu'ils ont reçu en verlan. Et quand on regarde ce qui revient au point initial, on voit que ce qui revient au point initial, qui était la source de l'expérience, c'est un petit cri qui dure une microseconde. C'est-à-dire qu'on voit que les ondes ont réussi à retraverser le milieu en marche arrière pour redevenir ce qu'elles étaient dans leur passé. Et ça, c'est intéressant par rapport aux particules. Parce que si vous preniez ce même milieu formé de 2000 cylindres de métal, et si au lieu d'envoyer une onde, vous envoyez une particule de billard, une petite bille là-dedans, et si vous regardez le mouvement suivi par la bille à l'intérieur du milieu, et si vous attendez que la bille sorte du milieu, et si vous mesurez la position de la bille et sa vitesse, et si vous la renvoyez en marche arrière, eh bien, ça ne marchera jamais parce que, comme je vous l'avais dit, pour une particule, un tel milieu est chaotique, c'est-à-dire la moindre erreur dans la façon dont je vais renvoyer la particule va s'amplifier et jamais la particule ne reviendra au point de départ. Par contre, si je fais cette expérience en envoyant une onde, l'onde revient au point de départ et refocalise. Les ondes ne sont pas chatouilleuses par rapport aux erreurs expérimentales. Et c'est tellement étonnant que on peut même, ces ondes qu'on a enregistrées sur chaque micro, on les enregistre avec une certaine précision. C'est la précision des mémoires électroniques et des convertisseurs qu'on utilise pour mettre l'information dans les mémoires. Et dans notre expérience, on utilise une précision qui est le 1/512e, c'est-à-dire on utilise ce qui s'appelle 9 bits d'information. Et lorsqu'on renverse temporellement tous ces signaux, en les ayant mesurés avec une erreur qui correspond au maximum à 1/512e, on voit que toutes ces erreurs, au lieu de s'amplifier, ne s'amplifient pas, l'onde revient en marche arrière. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'au lieu de retourner temporellement ces signaux sur 9 bits, c'est-à-dire avec une bonne précision, on peut faire une erreur énorme et les retourner sur ce qu'on appelle 1 bit. C'est-à-dire, chaque fois que le signal est positif, on le renvoie sous la forme d'un plus 1, chaque fois qu'il est négatif, on le renvoie sous la forme d'un moins 1. Et donc, on commet une erreur énorme dans la phase de retournement temporel et on regarde si l'onde revit quand même sa vie passée. Et si on fait ça, on constate que l'onde, quand elle revient refocalisée, se recompresser pour recréer le pulse d'une microseconde, qu'on travaille sur 9 bits ou sur 1 bit, c'est la même chose. C'est-à-dire, les ondes ne sont pas chatouilleuses, on peut renverser le temps pour les ondes et on peut commettre des erreurs importantes sans que l'effet soit dévastateur. Ça, c'est une première chose à comprendre. Et c'est relié à l'aspect chaotique de la propagation dans le milieu. Et je vais vous l'expliquer d'une deuxième façon, ça. Si, au lieu d'envoyer une onde dans 2000 tiges, je décide de faire une autre expérience. J'envoie une onde, je n'ai pas beaucoup de micros, comme tout à l'heure, ni beaucoup de haut-parleurs, et j'envoie une onde, dans, non pas à travers 2000 tiges, mais dans une pièce où les murs sont très réverbérants. C'est-à-dire, j'envoie une onde dans une pièce épouvantable. Quand je parle dans cette pièce, ce que je dis, vous ne comprenez rien, parce que tous les murs réverbèrent tellement que vous n'entendez que ce que j'ai dit, plus la répétition de ce que j'ai dit des tas de fois, et vous ne comprenez pas le langage, toute l'information que je vous donne. Si je prends une pièce qui a une forme astucieuse, et on verra que cette forme s'appelle en mathématiques une forme ergodique. Si je prends une pièce telle que, quand j'envoie une onde d'un point, il y a des rayons acoustiques qui vont dans toutes les directions. J'ai juste mes petits micros ici. Il y a les ondes, les rayons qui vont directement vers les micros, que j'appelle les ondes directes. Je les capte les premières sur mes micros. Mais j'ai choisi d'avoir une pièce dont les murs réfléchissent le son, astucieusement, de telle façon que n'importe quel rayon qui part dans n'importe quelle direction cogne les murs, rebondit une fois, deux fois, trois fois, et là, au bout de trois fois, arrive sur le micro. C'est-à-dire, si je choisis une géométrie de ma pièce, telle que, quel que soit le rayon, au bout d'un certain temps, après un certain nombre de ricochets, il arrive sur mes micros, eh bien, je vais capter l'information venant de tous les rayons sur ces micros. Et le signal que je vais enregistrer ici sera très très long dans le temps. Et quand je vais enregistrer ce blablabla très 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 long, quand je vais le renverser temporellement, ce que me disent les équations des ondes acoustiques, c'est que tous les signaux vont repartir en marche arrière et vont revenir refocaliser parfaitement sur le point de départ. Et la question, c'est comment peut-on créer des pièces qui ont ce genre de géométrie ? Et l'intérêt de ça est assez grand, c'est que si vous jouez au billard, vous pouvez prendre des billards qui peuvent être des billards rectangulaires ou des billards ronds. Ça, ce sont des billards qu'on appelle des billards intégrables en physique, c'est-à-dire c'est des billards où la prévision du mouvement des particules se fait très bien. Mais il existe des billards qui sont très imprévisibles, qu'on appelle des billards chaotiques. Ce sont des billards, par exemple, où les parois du billard ont une partie ronde et une partie rectangulaire. C'est deux symétries qui ne s'aiment pas, la symétrie du cercle et la symétrie de la droite. Et ces billards forment une grande collection de billards qui ont été étudiés par des mathématiciens soviétiques avant tout, Sinaï, Bunimovitch. Et ces billards ont la propriété d'être hyper chaotiques, c'est-à-dire que si vous jouez au billard là-dedans, si vous faites la moindre erreur sur la direction de tir, au bout d'un certain nombre de ricochets, l'erreur va s'amplifier d'une façon catastrophique. Comme tout à l'heure, ce n'était pas un billard dont je parlais, c'était un flipper géant où j'avais 2000 obstacles. Là, je vous parle d'un billard et où je rebondis sur les bords. Eh bien, dans ces billards, quand vous envoyez des particules, leur trajectoire, c'est très dur de la prévoir. Et donc, renverser la trajectoire d'une particule dans un tel billard, c'est impossible. Par contre, ces billards ont la propriété très sympathique, c'est que si la source qui est là envoie des rayons dans toutes les directions, eh bien, ces billards ont la propriété qu'on appelle d'ergodicité, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, tous les rayons que vous avez envoyés dans n'importe quelle direction finissent par passer aussi près de n'importe quel point du billard. Ça veut dire que dans une telle chambre, si vous émettez un son, si vous n'avez qu'un seul microphone, c'est vraiment le minimum pour faire un miroir à retournement temporel, ce n'est pas 10 000, c'est un seul. Si vous écoutez le tintamarre qui va arriver sur ce micro quand vous poussez votre cri initial, eh bien vous allez enregistrer de l'information, une information très longue qui va contenir tout ce qu'il faut quand elle sera retournée temporellement pour faire revivre à Londres sa vie passée et refocaliser là. Et ces expériences, on les a faites de la façon suivante. Nos billards, nos premiers billards, ce sont des plaques de silicium. Vous voyez ici une petite plaque de silicium avec laquelle on fait des composants en électronique. Et ces plaques, on peut donner un petit coup de marteau-piqueur sur la plaque. Ce sont des plaques qui font 10 ou 12 cm. Le marteau-piqueur, c'est un émetteur de son, d'ultrasons. On donne un petit coup qui dure une microseconde sur la plaque. Et sur cette plaque va glisser une onde qu'on appelle une onde de surface, mais c'est exactement la même chose que des ondes acoustiques ou élastiques, et cette onde va se répandre dans le billard et va se mettre à ricocher dans tous les coins. Et en un unique point, B, un microphone écoute le son. Et ce son est très long. Ici, on a émis un pulse qui dure une microseconde, et le son qu'on enregistre ici dure 30 millisecondes, c'est-à-dire 30 000 fois plus de temps que ce qu'on a émis. C'est un tintamarre épouvantable. Eh bien, vous prenez une petite tranche de ce son qui est parfaitement incohérent. Personne ne comprend ce qu'il y a là-dedans. Ici, la tranche qu'on prend dure 2 millisecondes. Excusez-moi, je remets un peu de lumière. Vous prenez 2 millisecondes de bruit. C'est un code épouvantable, complètement incohérent. Vous retournez temporellement ce code et vous le réémettez en marche arrière au point B. Et vous faites le film en utilisant un interféromètre optique, de l'onde qui part du point B, qui est complètement incohérente au départ, pour voir si elle va refocaliser exactement au point A. Et quand vous envoyez ce signal, ce code, ces 2000 informations étranges, ça part et ça cogne les parois. Et par le biais du renversement du temps et des interférences constructives et destructives, vous voyez que va se reformer pile poil au point A un magnifique pic qui refocalise sous la forme d'une tâche qui est la plus petite tâche qu'on peut espérer en physique, qui mesure une demi-longueur d'onde et qui refocalise exactement au temps où on attendait que ça refocalise. Ça veut dire, vous voyez que dans une telle cavité réverbérante, si j'ai enregistré ce long code, si je le retourne et je le renvoie par un haut-parleur, il va exactement focaliser sur un point. Alors, vous pouvez imaginer que ça peut avoir pas mal d'applications, ça, parce que si vous allez dans une église, le son réverbère bien. Donc, si je repère quelqu'un et j'ai envie de lui envoyer un message que seul lui va entendre, je lui demande de faire un petit clic à un moment donné. Il fait un petit clic très bref. Et moi, j'enregistre avec un micro le son qui arrive sur mon micro, qui vient de façon directe et qui cogne toutes les parois. Et j'ai donc une réverbération très longue. Une fois que j'ai ce code, je l'ai enregistré, je l'ai mis en mémoire et je le renverse temporellement. Et je le réémets par un haut-parleur qui est placé là où je suis. ça va partir dans toutes les directions et ça va exactement refocaliser sur cette personne. Lui va recevoir le clic qu'il avait envoyé. Mais moi, je ne veux pas lui envoyer un clic, je veux lui envoyer du Mozart. Donc, le code que j'ai émis, qui est très long, je le filtre par du Mozart. On dit que chez nous, je le convolue par du Mozart. Et ce que cette personne seule va recevoir, puisque le son a focalisé sur lui, c'est du Mozart. Et il n'y a que lui qui va l'entendre. On appelle ça aussi chez nous l'effet Jeanne d'Arc, parce qu'on aura pu enregistrer préalablement pour différentes personnes dans la pièce les codes qu'ils ont émis, qui tiennent compte de la géométrie exacte de la pièce. Une fois qu'on a ces codes, en retournant temporellement ces codes et en lui disant quelque chose, seul lui va l'entendre. Et on peut en parallèle envoyer des codes à différentes... on peut enregistrer pour différentes personnes leurs codes et envoyer des messages différents à différentes personnes. Alors, la première application très intéressante qu'on peut faire de ça, on l'avait proposé, nous, gentiment, dès 1990 à notre marine française, c'est d'utiliser ça en acoustique sous-marine. Malheureusement, les Français nous ont dit « ça n'a aucun intérêt ». Et on n'en fera rien, surtout que la grande firme nationale en acoustique sous-marine, Thomson, n'était pas intéressée par ça. Heureusement, nos collègues américains, ayant repris l'idée, l'US Navy a décidé qu'on pouvait peut-être faire de la télécommunication intéressante sous la mer par cette méthode. Et il faut savoir la chose suivante. Lorsque vous allez en mer, lorsque vous travaillez sur ce qui s'appelle le plateau continental, c'est la zone où la profondeur de la mer ne dépasse pas 100 mètres. C'est la zone importante, habituellement, c'est là où on se rapproche des ports et tout. Aucun sonar ne fonctionne bien, parce que les ondes sonores qu'on envoie pour faire de la détection de cible ou pour faire de la communication réverbèrent sans arrêt entre le fond et la surface. Et vous avez toujours la surface de l'eau, l'air ici, le fond de l'océan, et disons une centaine de mètres de hauteur. Et en plus, le son n'a même pas une vitesse constante dans la mer. Le son change en fonction de la profondeur de la mer. La vitesse du son change parce que, suivant la salinité, la température et la pression, le son a... Et si vous vous amusez en un point à émettre des rayons, les rayons ne vont même pas en ligne droite. Ils font n'importe quoi. Ils suivent ces trajectoires complètement chaotiques. Si vous vous amusez à suivre la façon dont ils évoluent, c'est n'importe quoi. Et donc, si vous voulez, à travers cette réverbération, travailler, vous ne pouvez rien faire d'intéressant et les gens ne se comprennent pas dans ce milieu hyper réverbérant qu'est la mer peu profonde. Donc, la marine américaine a donc lancé une opération de fabrication de miroirs à retournement temporel. Et ces miroirs ont été fabriqués à l'Université de San Diego et testés par l'OTAN près de l'île d'Elbe. On a d'ailleurs participé à toutes ces expériences qui sont assez spectaculaires. Et l'idée, c'est qu'on avait... le fond de la mer est très rugueux. Et si vous voulez faire de la communication sous-marine ou de la détection de cible, c'est très difficile là-dedans. Et l'idée est la suivante. Un miroir à retournement temporel a été fabriqué qu'on plonge dans la mer. Et ce miroir, je vais vous montrer sa tête tout à l'heure, en espérant qu'on aura assez de contraste. Ce miroir pend dans l'eau. Et quelque part, à 15 km de distance, quelqu'un pousse un petit cri. L'onde qui part de ce quelqu'un ou de cette source se promène dans la mer, mais zigzague dans tous les sens et réverbère épouvantablement. Et ici, tous les micros écoutent. Une fois que le son est enregistré, on retourne et on renvoie en marche arrière. Et on veut regarder si la propagation dans la mer permet de refocaliser très bien sur une toute petite tâche. Et l'antenne a la tête suivante. L'antenne est complètement souple. Vous voyez ici 20 haut-parleurs micro qu'on plonge dans la mer, qui marchent avec des fréquences sonores qui donnent des longueurs d'onde de l'ordre de 50 cm dans la mer. Et ça, on plonge dans la mer, il y a un petit véhicule qui se balade, ça, c'est un miroir hautement temporel qui se promène dans la mer. Et lorsqu'on pousse un petit cri loin dans la mer, on capte sur cette antenne toutes ces informations et on les retourne. Et on regarde ce qui se passe. Et là, vous allez voir certainement rien du tout, mais je vous dis juste, ici, il y a une distance de 10 km. Ici, il y a une petite source et ici, il y a une petite antenne de 100 mètres. Elle n'est pas petite. Elle enregistre le bruit de la source et elle retourne le temps. Tout refocalise sur la source sous la forme d'une tâche qui fait 1 mètre. 1 mètre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seul à l'endroit où il y a la source, un son va arriver sur 1 mètre, c'est-à-dire c'est la taille d'un plongeur, et le bateau qui est là peut envoyer un message à ce plongeur que seul lui va entendre. Tous les gens autour n'entendront rien, ils n'entendront qu'un bruit d'interférence destructive strictement incohérent. Donc non seulement on peut envoyer quelque chose à un plongeur, mais on peut faire mieux, on peut téléguider des petits véhicules. Par exemple, si vous avez ce qui s'appelle un AUV, donc c'est un autonomous véhicule qui se promène en mer, et vous voulez l'envoyer très très loin, eh bien, il suffit que ce petit véhicule régulièrement vous envoie un clic réglé sur l'horloge du GPS, qui est une horloge complètement internationale. Ici, l'antenne enregistre tous les échos qui arrivent, qui réverbèrent. On retourne temporellement tous ces échos, ça refocalise sur le petit véhicule. Mais si sur le petit véhicule, vous voulez renvoyer non pas un clic, mais vous voulez renvoyer un code, c'est-à-dire des informations plus 1, moins 1, etc., bien vous pouvez prendre tout ça et vous envoyer des successions de codes de ce genre. Et le résultat final, c'est ici quelque chose que seul lui entend et qui est parfaitement crypté et intéressant. Bon, donc ça, c'est une application intéressante des techniques de retournement temporel en mer. Il y en a des tas d'autres. On peut, par exemple, on peut protéger une zone de l'arrivée de sous-marins c'est-à-dire on peut faire ce qui s'appelle une antenne, une barrière à retournement temporel. La mer est épouvantable dans un chenal sous-marin. Aucun sonar ne peut voir passer les bateaux ou les petits véhicules qu'on veut laisser passer dans la zone. Eh bien, il suffit d'abord de faire une expérience de renversement du temps entre deux antennes. Une antenne envoie un petit clic, l'autre enregistre, on retourne le temps, tout refocalise sur l'antenne initiale. Et quand passe un petit sous-marin ou une machine à laver, c'était comme ça que l'expérience a été faite il n'y a pas longtemps, on voit brusquement que ça a perturbé la propagation des ondes et d'un coup, le système de retournement temporel ne marche plus. Donc on peut détecter le passage dans un milieu très réverbérant de quelque chose de pas prévu. Alors ça, c'est une application qui n'est pas tellement celle qu'on développe chez nous, mais qui est celle qu'on développe plus aux États-Unis sur le renversement du temps. Au passage, ces techniques peuvent marcher et vont marcher dans le futur en téléphonie mobile. Vous savez, en téléphonie mobile, qu'est-ce qu'on fait habituellement? L'information qui vous joint votre téléphone est envoyée par une antenne et cette antenne l'envoie dans toutes les directions. C'est une perte énorme d'informations parce que les antennes de téléphonie mobile envoient le même message dans toutes les directions et tout le monde le reçoit. Seul votre téléphone comprend, évidemment, parce que vous avez le code, mais ce n'est pas très rentable de disperser l'information dans tout l'espace. Il serait bien plus intéressant de profiter du fait que les villes réverbèrent les ondes électromagnétiques et donc ont la propriété, si on étudie la propagation dans les villes, cette propagation est ergodique, la fameuse propriété dont je vous ai parlé. Les ondes réverbèrent dans toutes les directions, ce qui fait que même si on utilise une petite antenne très simple, mais qu'elle marche en mode retournement temporel, on peut focaliser sur les différentes mobiles qu'on a. Alors, on est en train de réaliser ce genre d'opération. Les Américains ont compris que c'était intéressant. Nous, on a essayé de lancer ça il y a 4 ans au niveau de l'électromagnétisme. Mais il y a certainement des possibilités intéressantes pour la télécommunication à très grand débit, où on peut envoyer de façon cryptée à différentes personnes, à différents endroits, la bonne information. Seule la bonne personne entend le bon code. Et l'information n'est pas répartie de façon bête comme ça l'est aujourd'hui dans tous les systèmes de télécommunication. Elle est auto-focalisée sur la personne à qui on veut l'envoyer. Il n'y a que lui qui peut la comprendre et pas les autres. Bon, on pourra revenir là-dessus. Maintenant, les plus grandes applications du retournement temporel, ce n'est pas ça. Les plus grandes applications du retournement temporel qu'on a étudiées, c'est d'utiliser le retournement temporel non pas entre une source qui vous envoie un son qu'on retourne et qu'on renvoie sur la source, mais on n'a pas de source, on a juste des cibles. Les cibles, ça peut être ça peut être un calcul dans le rein. La cible, ça peut être une tumeur dans le cerveau. Et le problème qu'on a, c'est qu'on voudrait mettre au point un système pour autofocaliser sur la cible, pour la détruire, en envoyant beaucoup d'énergie. Et donc, il faut être capable, quand on a une antenne formée de beaucoup d'émetteurs piézoélectriques, de régler exactement chacun des émetteurs et de leur faire envoyer ce qu'il faut pour que ça focalise exactement sur la cible et pas ailleurs. Et par exemple, quand vous allez vous faire casser un calcul dans le rein, on vous focalise une onde ultrasonore très fort jusqu'à créer 1000 atmosphères au point focal et on vous tape sur votre calcul pour le casser. Et ça dure une demi-heure ou 10 minutes ou 20 minutes, mais on ne vous dit pas que pendant qu'on vous fait ça, vous respirez et le calcul il bouge de près de 2 cm. Donc, paf, presque tous les faisceaux, quoi, disons 3 faisceaux ou 2 faisceaux sur 3 ratent le calcul. Donc vous saignez beaucoup, mais les tissus du rein se régénèrent pas mal. Mais ce serait quand même plus malin, du point de vue d'un physicien, d'avoir un système qui traque exactement le calcul dans son déplacement et qui tape toujours dessus là où il est. Alors, comment on peut faire pour ça? On peut faire ça de la façon suivante. On a un réseau de haut-parleurs. Ici, on a un milieu de la graisse qui, par exemple, déforme les faisceaux. C'est un des problèmes. Les couches de graisse et les couches de muscles n'ont pas la même vitesse pour les ultrasons que les restes des tissus. Donc, quand vous envoyez un faisceau à travers quelqu'un qui est ou obèse ou très athlétique, eh bien, les faisceaux d'ultrasons ont beaucoup de mal et se mettent à zigzaguer. Et les images sont complètement floues, les images ultrasonores sur ces patients. Et c'est une bonne collection de patients qui posent problème. Alors, peut-on rattraper toutes les distorsions des faisceaux ultrasonores induites par les couches de graisse ou les couches de muscle? C'est le même problème qu'en astronomie. Quand vous voulez regarder une étoile à travers la turbulence de l'atmosphère, vous savez que le télescope du Mont Palomar, qui a 5 mètres de diamètre, eh bien, il fonctionne comme un télescope qui n'a que 50 cm de diamètre pour la résolution, parce que l'échelle des variations de la vitesse de la lumière, c'est 50 cm. Au bout de 50 cm, le profil de la vitesse de la lumière due à la turbulence a changé. La longueur de corrélation de la turbulence de l'atmosphère est 50 cm pour les ondes optiques. Et donc un télescope de 5 mètres marche comme un télescope de 50 cm. C'est du gâchis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie dans l'espace, en se trompant d'ailleurs sur la forme de la lentille. Et après, il faut rattraper la forme. Mais donc on a un problème similaire aux astronomes, sauf que nous, on a la chance. Contrairement aux astronomes, quand ils écoutent la lumière qui vient d'une étoile, s'il fallait la retourner temporellement, d'abord, ils ne savent pas le faire, parce qu'ils ne savent pas mesurer exactement les détails de la lumière. Et s'il fallait la renvoyer, avant de savoir ce qui arrivera sur l'étoile, ce sera très long. Alors que nous, on peut faire la chose suivante. Au lieu d'écouter ce qui vient des étoiles, on peut écouter les échos, puisque nous, on sait faire des échos. Et donc, on a des cibles. On dit qu'on a une cible ici. On envoie une première onde qui éclaire la cible à travers une couche de graisse ou une couche qui abîme complètement les choses. S'il y a une cible, je dis bien s'il y a une cible, il y a un écho. L'écho revient à travers cette couche et l'écho est complètement déformé quand il est capté par les micros. Maintenant, c'est des micros, ça a été d'abord haut-parleur, puis après micro. Et une fois qu'on a tous ces petits signaux qu'on a mis en mémoire, on sélectionne ce qui vient de l'écho et on le retourne temporellement. C'est-à-dire cette fenêtre de tas de petits signaux, on la renvoie en marche arrière. Là, automatiquement, tout le système refocalise vers le point initial, comme si c'était la source. La source qui était le réflecteur qui a renvoyé un écho devient la vraie source, et tous ces signaux focalisent là-dessus. Comme nos systèmes sont électroniques, entre le moment où on capte les signaux et le moment où on les renvoie, en les retournant, on peut aussi les amplifier par 1 million. Crac. Donc, si on a reçu 1 centième de bar, 1 centième d'atmosphère, on renvoie 10 000 atmosphères ou ce qu'on veut. Et là, on tape très dur. Alors, on a mis... Ça marche quand il y a un point. Maintenant, si vous avez plusieurs points, c'est-à-dire plusieurs cibles, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'itération de l'opération du renversement du temps. Vous éclairez plusieurs cibles. Il y a une cible grosse, une cible petite. Vous recevez 2 échos, un gros de la cible grosse, un petit de la cible petite. Vous renversez le temps. Automatiquement, vous renvoyez une onde grosse de grande amplitude sur la cible grosse et une onde de petite amplitude sur la cible petite. Vous écoutez le nouvel écho. Et comme vous itérez, la cible petite est toujours éclairée petitement, et ça s'élève au carré, à la puissance 2, à la puissance 3. La cible grosse est toujours éclairée fort. Et donc, en itérant très vite ces phases de renversement du temps, le système se met à traquer la cible la plus grosse. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Dans nos électroniques, il faut 1 millième de seconde pour faire une expérience de renversement du temps. On envoie une onde, on écoute tout ce qui revient, et 1 millième de seconde après, on renvoie. On écoute à nouveau ce qui revient, on renvoie, et on itère. Et quand on fait ça, on peut fabriquer des grands miroirs à retournement temporel comme celui-là, il fait 20 cm de diamètre. On peut mettre un rein, on peut mettre un caillou dans le rein, et on écoute les échos qui reviennent du rein. Et ces échos sont épouvantables sur tous nos transducteurs, les voilà. Il y a à la fois des échos qui viennent du calcul qui est dans le rein et des tissus du rein. On prend ça, on retourne ça et on renvoie en marche arrière sur le rein. Et on écoute le nouvel écho et on itère plusieurs fois. Et au bout de plusieurs itérations, le système cherche l'endroit qui brille le plus dans le rein, c'est le calcul. Et il cherche le point qui brille le plus. Et il le trouve et on a un très beau front qui apparaît dans notre système et d'un coup, on met la pêche et on tape pile sur le calcul, sur le point qui brille. Et toute l'énergie refocalise sur cette cible qui est devenue une cible comme la fameuse source active, et je peux envoyer de l'énergie. Et on peut faire ça très vite, on peut récurer très vite, c'est-à-dire qu'on peut le faire 10 fois par seconde ou plus, et on peut suivre tous les déplacements de la cible. Parce que quand le calcul bouge, vous avez le temps chaque fois de choisir le point qui brille le plus pour taper dessus. Donc on a fait un premier appareil, d'ailleurs on l'a fait avec une firme lyonnaise, Technomed, et cet appareil a marché dans des hôpitaux, a permis de traquer des calculs et à taper dessus. Il avait un défaut, c'est qu'il était très cher. Parce qu'au lieu d'avoir un émetteur, il y en avait 128, parce que le miroir à haute métropole devait avoir 128 émetteurs pour donner 1000 atmosphères au point focal. Depuis, on a fait un nouvel appareil qui exploite l'idée que je vous ai expliquée tout à l'heure. Quand j'ai un signal très bref, quand il rentre dans un milieu où il y a de la réverbération, là, il n'y avait pas de réverbération, le signal devient très long. Quand je le capte, tout ce signal très long repart en marche arrière et redevient très bref. C'est-à-dire que toute l'énergie que j'envoie pendant un temps très long se reconcentre pendant un temps très bref. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas émettre avec ces haut-parleurs plus de 20 atmosphères à la surface de chaque haut-parleur. Mais en utilisant la technique du retournement temporel dans ce que nous on appelle un canon à ultrasons, on peut obtenir très facilement 500 atmosphères à la sortie de chaque du guide. Et on peut donc faire des appareils très compacts, et on en réalise un à l'heure actuelle qui est un lithotripteur qui aura la forme juste d'un tube qui fait 5 cm de diamètre, qu'on amène là, et qui a 7 petits transducteurs piézoélectriques qui permet d'obtenir 1000 ou 2000 atmosphères pour casser les calculs. Alors ça, c'est une application. Autre application qui, elle, débouche sur un produit qui commence à être commercialisé, c'est peut-on repérer des défauts dans des solides ? Quand vous avez un solide qui a des formes géométriques très compliquées, comme un morceau d'avion ou un bout de centrale nucléaire, si vous envoyez des ultrasons là-dedans, vous ne savez pas focaliser les ultrasons dans le solide parce que vous ne connaissez pas. Vous mettez le solide dans de l'eau pour avoir un bon couplage pour les ultrasons et vous avez beaucoup de mal à repérer des défauts. Eh bien, il suffit d'envoyer une première onde qui éclaire le solide. Si à l'intérieur du solide, il y a un défaut, le défaut renvoie un petit écho. Cet écho est déformé par l'interface entre le solide et le liquide, parce que l'onde s'abîme, parce que les célérités du son ne sont pas les mêmes dans le solide et dans le liquide. Vous captez ça, vous retournez, et vous itérez plusieurs fois. Et s'il y a un défaut, le système autofocalise sur le défaut et sort le défaut du bruit d'une façon spectaculaire. Et on a mis au point un appareil pour SNECMA, qui est là, et cet appareil permet, vous voyez ici une pièce de moteur d'avion, c'est une billette en titane, et vous voyez difficilement ici un tout petit miroir à retournement temporel qui est en face. Et cet appareil a réellement des propriétés révolutionnaires pour détecter des défauts. Sur toute l'épaisseur de cette billette, il y a un certain nombre d'accidents d'avion qui sont dus à ce que le disque qui tourne dans l'avion, sur lequel sont attachées toutes les palettes, ce disque de temps en temps casse, parce qu'il y a un défaut qui s'appelle un hard alpha, qui est très dur à détecter. Et plusieurs avions qui ont explosé dans les 10 dernières années ont explosé à cause de ce problème dans le titane. Beaucoup d'avions russes en particulier, mais malheureusement des avions où les moteurs sont fabriqués par General Electric et SNECMA ont eu les mêmes problèmes. Donc, peut-on améliorer la détection de ça ? Et nous, on a mis au point une technique qui permet de détecter dans tout le titane des défauts qui sont inférieurs à 0,4 mm, alors que les techniques existantes de façon standard ne permettent de voir que des défauts de 0,8 mm. Mais la différence, c'est le volume. Il y a un rapport 8 entre les volumes des défauts, et le 0,4 mm est mortel encore. Donc, SNECMA est en train d'essayer d'obtenir que General Electric s'équipe aussi, comme eux, de ce genre d'appareil. Donc, une application amusante du retournement temporel, mais utile. Maintenant, à côté de ça, une autre application intéressante. Peut-on focaliser des ultrasons à travers le crâne pour pouvoir soit brûler des tumeurs, soit faire l'image par ultrasons du cerveau ? Jusqu'à présent, le crâne est considéré comme un milieu épouvantable pour la propagation des ultrasons. Pourtant, il laisse passer le son et les ultrasons. Vous savez tous que quand vous prenez un coup, ça passe de l'autre côté, et ce n'est pas un milieu parfaitement qui bloque tout. Et si on essaye de faire des expériences de renversement du temps à travers des crânes, et on a des demi-crânes au labo sur lesquels on a travaillé, on est très déçu. Quand on fait une expérience de renversement du temps, c'est-à-dire une petite source envoie un ultrason, on capte, on retourne et on regarde ce qui se passe, le crâne est mauvais en renversement du temps. Pourquoi ? Parce que le crâne a une toute petite couche, a trois couches, deux couches dures, extérieures et intérieures, et une couche fine, poreuse. C'est la couche qui permet d'amortir les chocs. Si on n'avait que du dur, on aurait beaucoup de problèmes. Cette couche poreuse est une couche qui dissipe une partie des ultrasons en chaleur. C'est-à-dire que le crâne est typique d'un milieu dans lequel il n'y a plus invariance par renversement du temps pour les lois de la physique, puisque une partie de l'énergie acoustique, des degrés de liberté et des mouvements coordonnés se transforment en mouvements désordonnés qui sont la chaleur. Et donc, il a fallu mettre au point une technique qui permette, avant de faire le renversement du temps, de compenser l'effet de dissipation du crâne en mettant, là où il y a de la dissipation, un gain astucieux. Et au laboratoire, Michael Tanter a mis au point une technique qui permet, à travers un crâne, de faire une tâche focale aussi bonne que s'il n'y avait strictement pas de crâne. Cette technique, c'est une technique dérivée du retournement temporel sur laquelle je ne rentrerai pas plus en détail, mais ça veut dire que pour nous maintenant, c'est très récent comme résultat, on peut mettre une barrette de transducteur devant un crâne et on peut obtenir des tâches focales qui sont les mêmes que si on était sur l'abdomen. C'est-à-dire qu'on peut d'une part envisager de faire de l'imagerie ultrasonore du cerveau, mais beaucoup moins cher qu'une imagerie RMN, avec l'intérêt c'est qu'en ultrason on peut voir aussi les écoulements du sang en parallèle, et donc ça peut être intéressant. Et d'autre part, on peut faire ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on peut, avec des transducteurs très très puissants, apprendre à focaliser, vous les voyez très mal évidemment, apprendre à focaliser à travers le crâne une onde très intense en n'importe quel point du cerveau. Et l'idée, c'est d'essayer de mettre au point, on fait ça avec l'hôpital du Val-de-Grâce, un appareil, là ici il y a 64 transducteurs, mais je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais ils sont tous là. Il en faut 200 pour que l'appareil marche complètement et on recevra bientôt les 200. On ceinture le crâne de ces transducteurs piézoélectriques et en utilisant un principe basé sur le renversement du temps corrigé des effets de dissipation, on peut focaliser une onde sur une tâche d'un millimètre et demi qu'on peut déplacer où on veut. Donc ça, c'est une application amusante. Alors, pour conclure sur d'autres applications, cette application est très importante aussi. Cette application, c'est l'illustration qu'il y avait dans l'article que j'avais écrit dans Scientific American sur le principe du retournement temporel. On voit quelqu'un qui pousse un cri, il envoie « hello », ça cogne un mur, et ce mur est un mur à retournement temporel, et tout lui revient en marche arrière, et le « haut » lui rentre dans la bouche, le premier, puisque c'était celui qui l'a prononcé le dernier. Ça, c'est ça le miroir à retournement temporel. Maintenant, si vous réfléchissez bien à ce que ça fait, si moi je dis hello, mais si mon voisin parle en même temps que moi et dit bonjour, moi je dis hello, lui dit bonjour. Tout est capté, retourné. Donc, tout va se revivre, toute la vie passée du son va se refaire en marche arrière. Donc moi je vais recevoir olé et mon voisin va recevoir giorno. Donc en même temps, tous les deux, on va recevoir des messages différents qui sont ce qu'on a émis nous au départ. Maintenant, je peux parler en verlan. Moi j'aurais pu dire olé et lui aurait pu dire giorno. Donc, tout ce qu'on dit est capté, retourné. Et donc, moi, je reçois, dans le bon sens, hello, et lui reçoit bonjour. Je crois que c'était comme ça qu'on avait décidé de faire les choses. Ça veut dire que je peux très bien, quand j'ai un ensemble de haut-parleurs micro, apprendre, pour différents endroits de la pièce, à envoyer en parallèle différents messages, l'un en anglais, l'autre en français. Je peux faire de la multiphonie. Et la chose qui est la plus curieuse et la plus intéressante, c'est que jusqu'à présent, tous les acousticiens, quand ils veulent faire des choses comme ça, ils ne veulent pas de parois réverbérantes. Ils veulent justement toujours des chambres qu'on appelle des chambres sourdes ou anéchoïques pour éviter tous les échos de réverbération. Ils se trompent. C'est infiniment plus simple et moins cher d'envoyer des messages, plusieurs messages différents à plusieurs personnes dans un environnement chaotique. Donc, il y a des applications intéressantes pour faire de la multiphonie dans les pièces. Alors, on peut faire de la multiphonie, on en fait au labo, mais on peut faire aussi quelque chose de très amusant. On peut apprendre à envoyer des messages à travers un mur. Par exemple, dans une pièce au labo, on a un mur, et dans la pièce d'à côté, on n'entend quasiment rien de ce qui est dit dans cette pièce. Parce que, quand vous faites un petit clic, pratiquement tout ricoche sur le mur, mais il y a quand même un peu d'ondes qui glissent le long du mur, qu'on appelle des ondes de surface. Et ces ondes font que dans la pièce d'à côté, si vous envoyez un clic très fort, dans la pièce d'à côté, si quelqu'un a un micro, il va entendre un signal très bas en amplitude, mais très long. S'il capte ce signal, et s'il n'y a pas un seul micro, mais s'il y en a par exemple 16, comme dans la manip qu'on faisait là, on peut apprendre à écouter des clics qui viennent d'une pièce, à les enregistrer à travers un mur. Les signaux sont complètement dispersés et on ne comprend rien, évidemment, du clic initial. Quand on les retourne, ça refocalise dans l'autre pièce. Et en fait, ce qui est spectaculaire, c'est que dans l'autre pièce, on crée des tâches focales très petites, qui sont de l'ordre toujours de la demi-longueur d'onde, qui est la limite de diffraction. Mais dans l'autre pièce, il n'y a aucun haut-parleur, aucune source. Ce sont les murs qui se mettent tous à rayonner exactement avec les bonnes amplitudes et les bonnes phases qu'il faut pour focaliser. Parce qu'on a appris à renverser temporellement l'onde, et après, on peut très bien lui rajouter un code pour envoyer un message. Donc ça, c'est une des choses amusantes. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec le retournement temporel ? Pas mal de choses. On peut faire peut-être, de la fusion thermonucléaire à bas prix. Alors, ça, ce n'est pas garanti, mais c'est ce petit appareil qu'on a fabriqué au labo. Vous avez peut-être entendu parler de quelque chose de tout à fait étonnant qui s'appelle la sonoluminescence. La sonoluminescence, c'est quelque chose d'amusant qui a été observé il y a 50 ans, mais qui a commencé depuis seulement 7 ou 8 ans à être un peu mieux compris. Quand vous avez une toute petite bulle d'air ou de gaz dans l'eau, si vous envoyez des ultrasons sur cette bulle à partir de l'eau, cette bulle, quand elle reçoit les ultrasons, elle est compressée puis dépressée, parce que les ondes ultrasonores, c'est des ondes de compression et de dépression. Donc, si vous envoyez une onde qui est assez symétrique, c'est-à-dire assez sphérique, quand elle vient osciller sur la petite bulle, qui est une bulle d'air, l'air, c'est très compressible par rapport à l'eau, quand l'eau s'agite, la petite bulle est écrasée et squeezée. Ça veut dire que ce qu'on observe, c'est que quand on envoie des ondes acoustiques qui résonnent dans la cavité où il y a la bulle. La cavité, c'est un petit bécher que vous voyez peut-être ici. Il y a deux petits transducteurs piézoélectriques et au milieu, on met une bulle. On envoie des ultrasons à une bonne fréquence et brusquement, on voit que la bulle se met à émettre de la lumière. D'où vient la lumière alors qu'on émet du son dans la bulle? Comment ça se fait que la bulle devient une ampoule électrique? Alors, ça vient du fait que sous l'influence des ultrasons qui viennent de l'eau, et à cause de la grande différence de compressibilité entre l'eau et l'air, la bulle est écrasée à une vitesse presque supersonique. C'est-à-dire, la bulle, quand elle prend le... Et quand elle est écrasée très vite, elle change de diamètre très vite. Et en changeant de diamètre très vite, il peut y avoir une onde de choc qui est créée dans la bulle. Et cette onde de choc fait qu'il y a une élévation de température et de pression très très forte dans la bulle très vite. Et la bulle se met à rayonner pendant quelques picosecondes. Ce n'est pas beaucoup, la picoseconde. De la lumière. Et si c'est fait par des ultrasons qui oscillent à 20 kHz, c'est-à-dire 20 000 fois par seconde, on voit 20 000 fois par seconde la bulle qui envoie un petit flash de lumière. Tout le monde s'est dit, oh là là, c'est intéressant, on va essayer d'envoyer de plus en plus de pêche sur la bulle pour qu'au lieu d'envoyer de la lumière, la pression et la température montent dans la bulle pour que la bulle se mette à envoyer des ultraviolets, des rayons X, et pourquoi pas des rayons gamma et des neutrons. Parce que si on atteint dans la bulle une pression et une température de tant de millions de degrés et de tant de millions de bars, on est dans un régime de plasma, le plasma qui peut devenir complètement générateur de tous ces neutrons. Donc tout le monde a essayé d'écraser la bulle plus. Problème. Dès qu'on envoie plus que 1,4 atmosphères sur la bulle casse. La bulle est un petit objet très fragile, qui a une paroi instable. Et il y a une instabilité qui s'appelle l'instabilité de Rayleigh-Taylor, qui fait que dès qu'il y a la moindre petite erreur, bing, la bulle se casse. Donc, on ne peut pas dépasser 1,4 atmosphères. Or, on a calculé que si on arrivait à mettre 1000 atmosphères sur la bulle, mathématiquement, on a vu des modèles, la température et la pression seraient suffisantes pour déclencher une réaction. Donc, nous qui sommes un peu diaboliques à l'école physique-chimie, on a fabriqué ce petit appareil, qui pour le moment est petit, mais je vous préviendrai quand il sera plus grand, parce qu'il faudra peut-être faire attention. C'est un appareil où, au lieu d'avoir les deux petits transducteurs qui envoient une espèce d'onde épouvantable sur la bulle qui n'est jamais très symétrique, c'est une cavité à retournement temporel qui, lorsque la bulle oscille à la fréquence basse, on écoute l'écho de la bulle à des fréquences ultrasonores très élevées, délivrées par ces 8 transducteurs. Et la bulle, on envoie un faisceau d'ultrasons sur la bulle, on écoute l'écho sur chaque transducteur. Une fois qu'on l'a écouté, on le retourne temporellement. Et donc, on crée une onde qui n'est parfaitement focalisé de façon parfaitement symétrique sur la bulle. C'est comme le calcul qu'on voulait casser. On veut le casser en tapant juste sur le calcul et pas ailleurs. Et là, si la bulle a une forme sphérique, l'ensemble des transducteurs recrée quelque chose qui est parfaitement symétrique, mais exactement focalisé, pile poil là où il y a la bulle. Et lorsqu'on a fait ça, pour le moment, on n'a mis que 10 atmosphères sur le système, on a automatiquement vu que la bulle se mettait à rayonner beaucoup plus de lumière, et certainement beaucoup plus d'ultraviolet, et beaucoup plus d'autres choses qu'on n'a pas encore bien compris. Mais on a vu que le seuil des 1,4 atmosphères, qui est la limite en sonoluminescence, peut être dépassé. Donc on en est à 10 atmosphères, mais il n'y a pas de raison qu'en mettant non pas 8 transducteurs, mais plus, et une électronique plus puissante, on ne puisse pas squeezer les bulles beaucoup plus fort pour atteindre des pressions et des températures très élevées. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que cette recherche sur le renversement du temps est intéressante. L'idée au départ, c'est peut-on faire une expérience de renversement du temps en physique ? En acoustique, on peut, parce que les physiciens sont remplacés par des transducteurs réversibles. Et finalement, c'est intéressant. Ça vous dit que les ondes sont beaucoup moins chatouilleuses, comme je l'ai expliqué, au problème du chaos, que les particules. Donc on peut très bien renverser le temps pour des ondes, et on le fait d'autant plus facilement qu'on est dans des géométries chaotiques. Donc ça nous donne un certain espoir pour l'avenir, parce que les ondes, il n'y a pas que les ondes acoustiques. Il y a les ondes électromagnétiques dont je parlais pour faire de la téléphonie mobile. Mais il y a d'autres ondes. Il y a la fonction d'onde quantique, par exemple, qui est associée à chaque particule. Aujourd'hui, c'est très difficile d'imaginer un miroir à retournement temporel qui, lorsque la fonction d'onde quantique arrive, déjà du fait de la mesurer, c'est une opération destructive. Donc, on ne voit pas très bien comment on pourrait manipuler la fonction d'onde quantique pour lui demander de recréer un ensemble de particules tel qu'il était avant. Mais l'espoir est là quand même. C'est que la mécanique classique, qui n'est qu'une approximation de la réalité microscopique, la mécanique classique, celle des particules, est sensible au chaos. Et en mécanique classique, on imagine mal faire d'expériences de renversement du temps à cause de ça. Maintenant, on peut imaginer peut-être plus tard, si les physiciens arrivent à trouver des techniques pour faire l'équivalent de ces miroirs à retournement temporel, mais sur la fonction d'onde quantique, on peut imaginer faire des toutes petites expériences de retournement temporel quantique. Et ce sera un premier pas, évidemment, à l'échelle de quelques particules de ce genre d'expérience. Il y a en fait un procédé qui permet de faire ce genre de choses. Il y a, en physique des supraconducteurs, un effet très joli qui a été trouvé par un Russe qui s'appelle l'effet Andreev, qui est lorsque vous avez une interface entre un métal normal et un métal supraconducteur, j'ai bien dit, j'espère que j'ai dit supraconducteur et pas semi-conducteur, un métal supraconducteur, lorsque vous envoyez des électrons d'un métal vers le supraconducteur, ces électrons repartent en marche arrière, mais sous la forme de trous. Un trou, c'est malheureusement le conjugué d'un électron. Et ça vient du fait qu'en physique, lorsque vous avez en plus une charge électrique, les symétries de la physique, ce n'est pas seulement la symétrie par rapport au renversement du temps et la parité que j'ai utilisée là, mais c'est aussi la charge. Et on sait faire, à l'heure actuelle, on sait faire de ces interfaces entre métaux et supraconducteurs, on sait renvoyer un électron exactement d'où il vient, mais sous la forme d'un trou. Et donc, si on arrivait à mettre un sandwich de ces systèmes, on pourrait faire en sorte que ce ne soit pas un trou qui revienne, mais un électron. Et si on arrivait à obliger un électron à revenir exactement sur ses pas, on aurait gagné, parce que remplacer un électron par un trou, ce n'est pas faire du vrai renversement du temps, puisqu'on veut exactement ramener la particule là où elle était au départ. Donc, je ne dis pas que ça se fera un jour, mais ces idées, en tout cas, nous donnent un espoir de pouvoir faire du renversement du temps sur tout ce qui est ondulatoire. Et notre chance en acoustique, c'est la révolution de l'informatique. Parce que ces idées, disons, moi je me rappelle, il y a 20 ans, déjà c'était une idée claire qu'on pouvait faire du retournement temporel, mais c'était impossible à le faire techniquement. Et il a fallu attendre l'arrivée des mémoires d'ordinateurs qui ne sont pas chères du tout pour pouvoir digitaliser nos signaux, les mettre dans des mémoires, et c'est seulement depuis 10 ans qu'on peut faire ça. Donc finalement, l'informatique ça, et toute la révolution ne sert pas qu'à faire de l'informatique, mais peut servir aussi à faire des expériences de belle physique. Voilà ce que je voulais vous raconter.
C'était passionnant et très convaincant. J'ai une question d'ordre général. Est-ce qu'il n'est pas un peu abusif de parler de retournement temporel ? Est-ce que ce n'est pas plutôt un retournement spatial ?
Bonne question. En physique, l'opération qu'on fait s'appelle un renversement du temps. On parle en physique d'invariance par renversement du temps. Alors, je suis d'accord que lorsqu'on voit le mot retournement temporel, on peut faire une confusion avec le mot remonter le temps. C'est-à-dire, le concept de machine à remonter le temps, on est bien d'accord que ça n'a rien à voir. Quelle est l'idée de base ici ? C'est que si vous avez un système de particules indestructibles, l'ensemble de ces particules, quand elles sont groupées d'une certaine façon, ça forme une entité. Cette entité, au cours du temps, pour des raisons diverses, se déforme et les particules se retrouvent ailleurs. Si vous êtes capable, parce que les particules sont indestructibles, de renverser toute leur vitesse exactement à l'échelle la plus petite, si on était capable de le faire, et de ramener toutes ces particules vers le système qu'elles étaient avant, c'est vraiment une expérience de renversement du temps. C'est-à-dire que la personne qui était jeune, qui s'est abîmée ou qui a vieilli, si toutes les molécules, toutes les particules, aucune n'ayant disparu, aucune ne s'étant transformée en quelque chose d'autre, si vous êtes capable de les... Alors, et si elles se sont transformées en photons et tout, si le processus est toujours invariant par renversement du temps, si vous êtes capable de manipuler tout et de renverser les flèches, alors vous retrouvez la personne telle qu'elle était avant. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est du renversement du temps.
Oui, je voudrais ajouter un complément. Est-ce qu'on est capable d'affirmer que le résultat est exactement conforme à l'origine ? Je veux dire par là, est-ce que la situation que vous analysez lors du retour est exactement celle qui était au point d'origine ? Alors, est-ce qu'on a les moyens de le contrôler ?
Voilà. Oui. Alors, dans nos expériences acoustiques, on a le moyen de le contrôler. Et quelque part, bon, je n'ai pas voulu parler trop longtemps d'un autre aspect, c'est que dans nos expériences de retournement temporel des ondes, même si la source est parfaitement ponctuelle, quand la source envoie des ondes qui ont une certaine longueur d'onde, l'onde qui revient à la source n'a pas exactement la forme de la source parce que il y a le fameux phénomène dont je parlais de limite de diffraction, qui dit qu'elle a une taille qui est la demi-longueur d'onde. Et ce qu'on a fait, c'est une très belle expérience qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé ce qui s'appelle un puits acoustique pour exactement réaliser une expérience de renversement du temps parfaite. Je n'ai pas voulu le montrer parce que je pensais que ça suffisait, mais je vous explique la chose suivante. Quand vous renvoyez une onde en marche arrière, rappelez-vous la scène initiale. L'histoire initiale, c'est une source qui fait un clic et l'onde part. Ça, c'est le film que je tourne. Et je vois, ça part d'un point, je l'enregistre. Vous imaginez faire du renversement du temps, c'est-à-dire vous prenez le film et vous le passez à l'envers. Donc l'onde devrait revenir exactement, s'arrêter là où est la source. Quand on fait l'expérience de renversement du temps, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne le temps sur le bord de la cavité. Donc l'onde sphérique, elle revient en marche arrière, elle revient vers le point de départ. Mais une onde a un problème dans sa vie. C'est qu'une onde ne sait pas s'arrêter, parce qu'une onde a une vitesse. Et si vous regardez l'équation des ondes, il y a un terme, c'est la vitesse qui est là-dedans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'onde, retournée temporellement, repart en marche arrière, elle revient focalisée vers le point dont elle est partie, mais comme elle ne sait pas s'arrêter, elle collapse. Et elle repart dans l'autre sens sous la forme d'une onde divergente. Et l'origine de la tâche de diffraction en physique, c'est la chose suivante. Quand l'onde converge, comme elle contient plusieurs oscillations, quand elle atteint son point focal, elle commence à diverger. Et donc, il y a deux ondes qui se croisent, l'onde qui converge et l'onde qui diverge. Et l'interférence entre les deux donne la tâche. Ça veut dire que l'origine, dans toute la physique des ondes, de la tâche de diffraction, c'est le fait que même la plus belle onde sphérique, qui est l'objet le plus beau qu'on peut imaginer pour un physicien, même la plus belle onde sphérique n'arrive jamais à revenir vers la singularité dont elle est l'origine, puisque comme elle ne s'arrête pas, elle crée une tâche. Et donc, ce qu'on a réalisé au labo, et on est en train de le publier dans Nature, et c'est une super manip, c'est, on s'est dit, comment faire une scène telle que l'onde qui revient s'arrête pile poil à sa source sous la forme de ce qu'on appelle un Dirac ou une singularité. Et l'idée est très simple. On réalise le renversé temporel de la source. La source, c'est ce qui a émis. Pour le moment, j'ai appris à renverser le temps sur le bord de la paroi. Maintenant, je voudrais aussi retourner temporellement ou renverser temporellement la source. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux faire un puits. Mon but, c'est que quand l'onde arrive, elle s'arrête définitivement et qu'elle ne collapse pas pour aller dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce que je fais ? Au moment où l'onde arrive, je réactive la source pour qu'elle crée l'antibruit de l'onde divergente. C'est-à-dire l'onde divergente qui se crée dans toute expérience de physique, parce que la physique est comme ça, il n'y a rien à y faire. Moi, j'arrive avec mes moyens électroniques, pilotés par l'informatique, j'ai tout contrôlé, et c'est Julien de Rony qui a fait sa thèse là-dessus, et au moment où l'onde arrive uniquement sur l'endroit d'où elle est partie, clac, on active d'un coup, électroniquement, on envoie le code, pour que l'onde envoie l'antibruit de l'onde divergente, c'est-à-dire qu'on recrée dans l'espace deux ondes divergentes qui sont en opposition de phase, et ça s'annule. Et toute l'énergie va dans la pointe, ce que vous avez vu, et l'onde reconverge vers une singularité. Et au lieu d'avoir une tâche focale qui est lambda sur 2, qui est la limite de toute expérience de physique sur les ondes, on a créé une tâche focale de lambda sur 50, disons du 50e de longueur d'onde, parce que c'était la taille de notre pointe. Et là, on a pu vérifier qu'on a fait une véritable expérience de renversement du temps, où à la fois on avait renversé les effets de bord de l'onde, mais on a renversé le rôle de la source, et on a remplacé la source par un puits. Donc, si on voulait, au niveau de l'acoustique ou de l'optique, plus tard, faire de ce qui s'appelle la super résolution, mais au sens faire des images bien mieux définies, en optique, je ne vois pas comment on peut faire ces puits optiques. Mais c'est un concept intéressant. Et là, on a vraiment constaté que la scène qu'on a refabriquée était exactement le contraire de la scène initiale. J'ai en fait un film sur mon ordinateur où on compare l'onde avec ou sans puits, mais comme il n'est pas branché, ça sera trop difficile. Mais disons, on peut faire une vraie expérience. Mais attention, il faut éviter que, dans le cas des ondes, que l'onde reparte dans l'autre sens.
Oui, donc on envoie une onde incidente, on récupère l'écho et on fait des itérations. Pour pouvoir justement focaliser de plus en plus sur la cible. Comment vous faites ces itérations ? Comment vous êtes capable de retrouver dans tout ce bruit ce qui est du domaine de l'écho de la cible et ce qui n'est pas du domaine de l'écho de la cible ?
Alors, en fait, s'il y a plusieurs cibles, comme je vous l'expliquais, même si on capte tout et si on retourne temporellement tout, en itérant, à la fin, ça ira sur la cible la plus brillante. Mais ce qu'on fait dans toutes nos expériences et dans tous les appareils qu'on a fait pour le contrôle non destructif ou pour la lithotripsie, c'est qu'on sélectionne dans des fenêtres temporelles les échos qui viennent d'une certaine profondeur. Et on ne retourne pas tout ce qu'on reçoit, parce qu'on peut recevoir à la fois les échos des cibles qui vous intéressent et des échos de cibles beaucoup plus lointaines et tout. On peut, en sélectionnant dans le temps certaines fenêtres temporelles, ne retourner qu'une partie de l'information qui revient. Et toute la souplesse qu'on a, parce que tout est piloté par informatique, c'est qu'on peut, en temps réel, sélectionner la tranche d'onde qui m'intéresse, que je veux retourner. Et donc, il y a quand même chaque fois, ce n'est pas de l'automatique. Il faut, par rapport au problème qu'on a, choisir des fenêtres.
On relie l'enregistrement à une vitesse différente, par exemple deux fois plus vite, avant de le retourner.
Alors, on a breveté justement ce genre de concept un peu amusant, c'est qu'on peut enregistrer un signal et le retourner temporellement, mais on peut aussi, avant de le retourner, le compresser temporellement ou le dilater temporellement. Et dans ce cas, on change la focale initiale, c'est-à-dire que l'onde partait d'une source, disons, à 20 cm de votre miroir. Si vous la captez et si vous compressez le temps d'un facteur 2 et vous retournez, l'onde repartira, mais au lieu d'aller sur la source, elle ira deux fois plus loin. Et je dirais qu'en acoustique sous-marine, avec les Américains, on fait ça pour, quand on a repéré une cible dans un chenal, pour pouvoir non seulement focaliser sur la cible, mais sur les points derrière et devant. C'est-à-dire qu'on peut marier retournement temporel et compression ou dilatation du temps. En faisant ces deux opérations, on change la focale. Bon, ça n'éclaire ce qu'on voit que si le milieu est simple. Si le milieu est compliqué, on n'est pas capable toujours de prévoir ce qui va arriver. Mais disons, on peut manipuler le temps, on peut faire des transformations sur le temps. Il y a le renversement du temps, qui est la première transformation, mais il y a aussi compression et dilatation du temps, qui changera après les courbures des ondes qui repartent dans le milieu.
Quel est le lien, s'il existe, entre ce que vous avez expliqué et la conjugaison de phase qui permet de supprimer des sons ?
La conjugaison de phase optique ou sonore ? Bon, en fait, la conjugaison de phase optique ou sonore, ça ressemble au retournement temporel si vous avez une onde qui est purement sinusoïdale. Si vous avez une onde parfaitement sinusoïdale, donc qui dure un temps infini, qui est une belle sinusoïde, si vous voulez que cette onde revienne dans sa direction initiale, mais une onde sinusoïdale, il n'y a plus de notion de temps, parce qu'elle oscille tout le temps, vous pouvez, par le biais d'une astuce très élégante, qui a été développée en optique et en acoustique, en utilisant la non-linéarité d'un milieu et en mélangeant cette onde avec une deuxième onde, créer une troisième onde qui revient en marche arrière. Alors, la conjugaison de phase est profondément reliée au retournement temporel, mais toutes les expériences que je vous montre où on peut faire du retournement temporel avec un capteur dans une pièce réverbérante, ou à travers la diffusion multiple, ces expériences, si on les fait à une fréquence, elles ne peuvent plus marcher. Parce que dans le retournement temporel, rappelez-vous, j'émets un pulse bref. C'est quelque chose qui est bref au départ. Ce n'est surtout pas quelque chose qui n'est qu'à une fréquence. Et c'est la richesse spectrale de ce que j'émets qui va faire que la qualité du retournement temporel dans un environnement chaotique va apparaître. Et si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a étudié pas mal avec des mathématiciens à Stanford. Justement, le retournement temporel, ça n'est pas du tout la même chose que la conjugaison de phase en milieu aléatoire ou chaotique. Il faut la richesse en fréquence d'un pulse bref qui contient des tas de fréquences pour que l'effet dont je vous parlais sur l'ergodicité se manifeste. Si vous avez une sinusoïde, c'est mort. La conjugaison de phase est infiniment plus limitée à une fréquence que le retournement temporel. Juste un commentaire là-dessus. La conjugaison de phase en optique, ça existe, et l'holographie est quelque part, l'holographie optique, une idée basée sur la conjugaison de phase. Vous vous rappelez que quand vous avez un objet que vous éclairez par de la lumière monochromatique, ça doit être une sinusoïde qui sort d'un beau laser et tout, la lumière qui sort de ça, quand elle rencontre une plaque photographique sur laquelle une deuxième onde arrive et interfère, on développe la plaque, crac, on a la belle plaque, et on la rééclaire par une troisième onde. Et qu'est-ce qu'on voit ? Paf, l'objet qui réapparaît dans ses trois dimensions. On a enregistré dans la plaque un système de franges qui sont la signature de l'objet qui a été éclairé. Et ce système de franges, quand on le rééclaire, redonne par interférence la forme de l'objet. Mais pour pouvoir faire ça, il faut travailler à une fréquence, ou de façon très astucieuse, de temps en temps en lumière blanche, mais on ne peut pas travailler pour des pulses brefs. Et quelque part, le retournement temporel des ondes acoustiques remplace la plaque, qui s'appelle le hologramme, par l'ensemble des micros et de leur mémoire. Et quelque part, ces franges, qui sont la signature de l'objet, pour un objet éclairé par de la lumière, sont remplacés par tous les codes qui rentrent dans les mémoires électroniques associées à tous les micros. Tous ces codes, c'est les franges à toutes les fréquences sonores de l'objet, et c'est plus que des franges, c'est des codes spatio-temporels, et quand on les réémet, on peut bénéficier de tous ces effets, mieux que l'holographie, qui est que dès qu'on est en régime chaotique, on a besoin de moins en moins d'émetteurs. Mais quelque part, c'est profondément relié aux premières idées sur l'holographie et la conjugaison de phase.
Quelles techniques on peut penser les utiliser pour créer une zone de silence dans un milieu bruyant ?
Oui, on regarde ça, en fait. Ça s'appelle l'anti-bruit ou des choses comme ça. Le problème de l'anti-bruit, à l'heure actuelle, l'anti-bruit, on essaye quand il y a un transformateur qui fait du bruit. S'il fait un bruit très périodique, on peut prévoir le bruit qu'on reçoit et on peut, avec d'autres haut-parleurs, détruire par interférence le bruit qui vient. Mais ce dont vous parlez, c'est un petit peu différent. Est-ce que c'est de l'anti-bruit ou est-ce que c'est créer un silence dans une zone lointaine ? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle créer un nul, quoi, dans le langage anglais. Et justement, c'est ce qu'on essaye de faire en mer. On essaye de faire des zones dans lesquelles, au lieu de focaliser un son, on veut qu'il y ait du son partout, sauf dans une toute petite zone. Donc, Il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Babinet en physique des ondes qui vous explique que mettre du son quelque part, c'est deux opérations complémentaires. Et on peut très bien utiliser le retournement temporel pour apprendre à envoyer de l'énergie partout sauf dans une zone plutôt que pour envoyer beaucoup d'énergie dans cette zone. Il y a un certain nombre d'astuces qui peuvent être utilisées.
Alors, professeur Matthias Fink, merci beaucoup.